Voilà, rebonsoir. J'espère que vous êtes bien installés. Comme vous me voyez chez moi, je vous vois chez vous. Pour autant que vous ayez votre caméra ouverte, et je dois dire que c'est assez sympathique quand même de voir des personnes plutôt que des carrés noirs. Donc voilà, on peut même choisir la page qu'on souhaite regarder. Je ressens que, certainement vous aussi, que nous vivons une période de profonde incertitude à beaucoup d'égards, à beaucoup de niveaux. Et il y a peut-être des situations très proches de nous qui sont douloureuses, perturbantes. Je pense à Genève, à toutes ces personnes qu'on doit nourrir chaque samedi, parce qu'elles n'ont pas de quoi manger à Genève. Des personnes qui émergent de l'ombre. Il y a aussi des nouvelles qui nous parviennent de plus loin par le biais des médias. Et donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de défis aujourd'hui et de nombreuses questions qui émergent si on veut bien s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Et il y a bien sûr le dérèglement climatique qui a eu tendance à être éloigné à cause de cette pandémie, mais ce dérèglement est toujours là. Il y a naturellement une croissance de la famine sur le continent africain et ailleurs. Il y a des incendies, des inégalités sociales qui créent des tensions entre les êtres humains et qui provoquent une montée des extrêmes. Ceci aussi, on peut le constater. Il y a très clairement ces derniers jours des injustices raciales. Elles ont toujours été là, mais elles émergent au grand jour et elles provoquent des conséquences désastreuses. Et donc, on pourrait vraiment allonger la liste des soucis de ce monde, des problèmes, on peut dire. Donc en tout cas, pour ma part, comme être sensible, et j'imagine que vous aussi, il y a des questions qui émergent et on est forcément impacté par ces nouvelles. Soit on est irrité et on ressent de la colère, soit on est quelque part frustré ou triste. Et puis, on peut bien sûr avoir tous ces sentiments et à des moments différents. Et par moments, on peut aussi décrocher, devenir indifférent, parce que c'est trop difficile à constater et on se sent impuissant. Et donc, on perd pied ou on s'accroche et on s'agrippe à pouvoir trouver un havre de refuge qui permet de s'agripper. C'est évident qu'il y a des personnes qui voudraient que ça revienne à la normale, ce que moi j'imagine n'est pas du tout la normale. Donc ça dépend aussi de comment on perçoit les choses. Donc cette frénésie et cette rapidité, ce mouvement, voilà. Donc il y a une foule de choses, certainement de pensées qui nous traversent, d'impressions, d'émotions, en constat avec la nature du monde. Et on réintègre le monde dès demain. Et je crois que dans cette grande pause qui nous a été imposée, elle a été vraiment plus longue qu'imaginée. Il y a une question, en tout cas pour ma part, qui me visite fréquemment et que j'ai envie de partager. C'est quel genre d'avenir allons-nous créer? Quel genre d'avenir allons-nous créer? Et lorsque je parle de cette manière, je m'adresse à toutes les personnes ici présentes et à d'autres. Car on fait partie de ces choix. Je crois que c'est pour cela que la qualité de notre méditation dans le sens de notre élévation du plan de conscience est tellement importante. Elle est importante parce que on ne peut pas, quand on devient sensible comme on l'est en méditation et si proche de nous-mêmes, de ce qui émerge, ça nous rend sensible. Ça peut nous faire aussi sentir une certaine vulnérabilité, mais ça implique aussi qu'on réalise que par le biais de l'esprit, on a des choix à faire et que les choix que nous faisons maintenant vont avoir un impact. Donc cet impact, il est important et c'est exactement ce que enseigne l'enseignement. Le Bouddha dit. Les choix que nous faisons, donc ce qui motive nos actions, provient de notre esprit. Alors peut-être que plutôt que d'attendre que cet avenir soit habituellement façonné de l'extérieur, comme généralement on le fait, on laisse à d'autres les décisions, nous pouvons peut-être nous aligner déjà. En tout cas pour ma part, c'est extraordinaire de sentir que le fait d'être aligné sur la présence intuitive et intérieure, dans un sens de centrage, eh bien, on peut se rendre compte qu'il est possible que notre propre pouvoir est entre nos mains. Que nous avons quelque part la responsabilité, de aussi orienter nos vies à partir de ce qu'on souhaite. Et c'est incroyable combien je pense qu'il y a là, dans notre vie d'aujourd'hui, une transformation et quelque chose qui émerge de très très important et qu'il y a besoin de plus de conscience. Alors cette qualité de conscience intuitive, qu'est-ce qu'elle nourrit? Eh bien, elle nourrit la présence, mais elle nourrit aussi l'empathie. Donc cette capacité de pouvoir être en mesure de sentir ce qui se passe autour de nous et d'avoir une qualité de discernement ou de lucidité qui va naturellement évoluer par bond, qui va peut-être s'en aller, mais qui fait que quelque part on émette de son destin dans le sens de souhaiter un changement et que la compréhension de la vie est quelque part importante et qu'elle provient de cette force intérieure, du courage qu'on va avoir à déjà se situer en nous-mêmes, et c'est ce qu'on a en ce moment. Le fait qu'on soit pendant un week-end de Pentecôte en retraite, en méditation ensemble, ça montre vraiment quand même une certaine curiosité en tout cas et un intérêt, et que peut-être que le questionnement que j'ai, vous l'avez aussi, et que peut-être vous le formulez différemment, on a chacun nos mots. Mais il y a cette dimension de force intérieure qu'on a envie de découvrir, qu'on a envie de générer pour pouvoir percevoir et contribuer à un changement extérieur, un changement plus global, comprenant aussi que on n'est pas isolé et que tout ce qui se manifeste aujourd'hui et on le perçoit est clairement collectif. C'est vraiment une contribution au sein du collectif et combien on a pu percevoir ceci encore et encore pendant cette pandémie, combien on est dépendants les uns des autres, combien on est interdépendants et qu'on est peu de choses tout seul. Donc voilà, on a eu et on a beaucoup applaudi ce qu'on a appelé nos héros, les gens qui ont été vraiment sur le front et qui ont donné immensément d'eux-mêmes pour pouvoir passer cette phase critique, et on a beaucoup d'incertitudes quant à la suite. Et donc ça, je crois que c'est important de le reconnaître. Donc le courage ici est nécessaire. C'est un courage qu'il n'est pas tenu comme acquis. Et Yankelevitch le disait ceci, il disait, être courageux ne peut jamais être tenu pour acquis. Il ne suffit pas d'avoir été courageux un jour, il faut continuer à l'être au présent et dans l'avenir. Et il ajoute, et combien c'est difficile. Et combien c'est difficile. Donc cette élévation du plan de notre conscience, c'est essentiel, mais c'est aussi essentiel de pratiquer comme on le fait ici pour pouvoir ensuite agir d'un espace un peu plus équilibré, moins confus, plus centré, moins réactif. Donc si on a cette idée que vraiment on est quelque part égocentrique quand on médite de la sorte, eh bien c'est tout le contraire. Nous développons des ressources, on développe des qualités et que naturellement ces qualités vont se manifester autant qu'on le souhaite dans nos actions. Donc avoir une pratique comme celle-ci est vraiment précieux. La méditation, elle nous relie à nous-mêmes. Et elle permet non seulement de prendre conscience de ce qui se trame en nous, mais elle permet un rapport et un choix de vie qui fait qu'on génère et qu'on s'appuie sur les qualités, sur nos qualités intérieures, sur nos ressources, plutôt que d'être à la dérive et constamment pris et en train de générer les réactivités, les difficultés. Ce qu'on appelle les kilesas, qui sont les perturbations mentales. Et donc là, on se rend compte qu'on peut prendre une autre direction, qu'une autre voie est proposée et qu'elle est générée et qu'elle peut être naturellement appliquée. Le dharma, c'est aussi un chemin d'engagement. Donc ce n'est pas uniquement un chemin d'intériorité et en silence. Il y a beaucoup de discours du Bouddha où il y a des exemples d'engagement de la part du Bouddha lui-même. Lorsqu'il s'interpose, par exemple, pour apaiser un conflit entre deux rois, ou qu'il va sur un champ de bataille pour tenter d'arrêter même une guerre. Et donc, il y a vraiment cet incroyable type d'activité qui fait que on met en engagement, on s'engage par rapport à ce qui se manifeste. Donc par moments, on se sent dépassé, c'est évident qu'on ne sait pas très bien où ça va, tout ça. Il y a un manque d'enracinement et on cherche à avoir des racines. Et peut-être que ce qui est important là, c'est de pouvoir sentir que c'est possible aussi d'avoir des ressources dans le chaos. Que dans un contexte de vie où les choses sont peut-être en désordre et qu'il y a des difficultés et qu'il y a des... un manque d'enracinement et qu'on se sent submergé et qu'on perd peut-être les repères d'avant, eh bien, il y a un rapport au monde que l'on peut générer qui va naturellement être différent, mais qu'on peut à ce moment-là aussi découvrir et qui va dans le sens d'un dépouillement, dans le sens d'une transformation heureuse et volontaire, souhaitée, et qu'on contribue à cette... disposition. Et ça, je crois que c'est vraiment tellement important d'intégrer la méditation à sa vie. Et donc, dans un cheminement de contexte de dharma, dans le sens d'un cheminement spirituel au sens large, hein, on peut naturellement parler aussi de la dimension sacrée de notre être, eh bien, on a à cœur de développer ces qualités. Et qu'on constate aussi le pouvoir de l'esprit. Donc il y a deux dimensions là que j'aimerais élaborer ce soir par rapport à pouvoir trouver un cheminement qui nous donne ce sentiment de courage et de centrage et en même temps d'ouverture. Le pouvoir de l'esprit, lorsqu'on y prête attention dans l'enseignement, il dit, si nous regardons simplement la manière dont se déroule notre vie, nous pouvons repenser à certains choix de vie. Et le Bouddha nous invite à faire ces réflexions. Là, il s'agit vraiment de réfléchir et de dire, tiens, est-ce qu'il y a certains choix de vie qui ont été bénéfiques, qui ont été heureux, emplis de compassion, de bienveillance et qui ont abouti à une dimension d'aise, de paix intérieure. Est-ce qu'il y a des choix qui ont été malheureux et donc s'appuyer sur le passé pour se rendre compte de ce qui a abouti dans la douleur et la peine, le chagrin, comme il dit, ou dans la joie, dans l'aise. Il parle même de béatitude, dans le sens de qualités qui peuvent être naturellement extrêmement plaisantes. Donc, comment ces choix se sont faits à partir de notre esprit? Donc, non pas de situation extérieure, mais c'est dans l'esprit lui-même qu'on va commencer à pouvoir être capable de discerner s'il y a des choix judicieux ou des choix qui sont un peu moins judicieux. Donc, le Bouddha nous rappelle constamment que de la capacité de penser vont naître ensuite nos actions. Que la capacité de penser vont ensuite naître nos actions. Et que ceci est complètement relié. Il y a un cheminement du fait de nos intentions, d'être dans une dimension de motivation des pensées, puis ensuite d'agir ces pensées dans le sens souhaité. Il prend cet exemple, si vous êtes à la merci de quelqu'un qui porte une arme et que cette personne est enragée, il y a de fortes chances d'être en danger. Une personne qui, lors d'un accès de colère, tire sur un passant la nuit et la blesse grièvement parce qu'il fait du bruit, crée un véritable basculement de vie pour deux personnes. La personne, naturellement, qui est visée, mais aussi le basculement pour la personne qui a créé l'action. Et donc, on le voit ces jours. C'est inimaginable combien cette dimension, cet aspect de l'être est présent. Donc, dans l'esprit, il naît des actions heureuses ou malheureuses. L'esprit peut toujours aller dans les deux sens. Lorsqu'on est un petit peu plus centré, plus calme, plus tranquille en nous-mêmes, eh bien, on va pouvoir, bien sûr, à ce moment-là, être un petit peu plus à même de développer l'esprit dans le sens souhaité. Donc, le calme va générer la capacité de nourrir l'esprit et les actions dans le sens souhaité et être moins à la merci, de la colère, de la rage, des perturbations. Il y a un maître tibétain qui dit: le pouvoir de la bienveillance est bien plus puissant que celui des armes. Qu'on puisse entendre ceci, et que si chaque être humain en était rempli, il n'y aurait personne pour appuyer sur la gâchette, cela changerait l'état du monde. Donc on se rend bien compte de l'implication d'un esprit qui est entraîné ou qui est en capacité de pouvoir déjà repérer ce qui est en lui-même. Maintenant, cette dimension du calme est très très présente et en même temps, il y a aussi cette dimension d'investigation, de lucidité, de discernement. Et ces deux sont conjointes. Donc, que ce soit pour notre propre pratique méditative, dans un cheminement de méditation lui-même, ou dans notre vie. Le Bouddha dit, il y a deux aspects qui contribuent au développement de l'esprit de chaque être pour qu'il approfondisse la connaissance de lui-même. Un aspect est le calme et l'autre est la vision pénétrante. Un aspect est le calme et l'autre est la vision pénétrante. Lorsque le calme est développé, l'esprit l'est également. Donc s'appuyer sur le calme pour développer son esprit. Lorsque l'esprit est développé, le désir attachement, la saisie, est abandonné, de même que lorsque la vision pénétrante est développée, vipassana, la sagesse l'est également. Par sagesse, nous voulons dire discernement, lucidité, vue juste. Lorsque la vision pénétrante est développée, la confusion est abandonnée. Donc le calme a cette capacité de pouvoir, quelque part, nous libérer de la dimension de la saisie qui provient du désir-attachement. La lucidité, la vision juste, la vision pénétrante, va nous libérer de la confusion. Et c'est ces deux aspects-là qui, quelque part, posent problème dans notre cheminement intérieur et, bien sûr, dans notre vie. Vouloir, pas vouloir, s'attacher à certaines expériences, ne pas en vouloir d'autres. Donc ça, forcément, ça provoque, quelque part, de l'agitation. Exactement l'inverse du calme. Donc on comprend bien ça. Et lorsqu'il y a perte de vision pénétrante, perte de clarté et de lucidité, eh bien la confusion a toute la place pour grandir, pour croître. Donc ces deux qualités, si vous voulez, ces deux types de pratiques même, on peut très bien pratiquer le calme indépendamment de la vision pénétrante. Et certaines écoles, on va dire, ou traditions, vont proposer ces deux types de pratiques de manière un petit peu séparée. Nous ici, elles sont complètement jointes. Le fait de choisir une zone d'ancrage, le fait d'être immobile dans la pratique de la méditation assise par moment, nous permet quelque part d'être en phase avec ce qui émerge d'instant en instant, comme on l'a dit. Et puis, naturellement, la tranquillité, le calme, mais aussi cette dimension beaucoup plus importante qu'est la stabilité de la présence, va naturellement être plus grande et s'approfondir. Donc le calme ici, ce n'est pas un état particulier à atteindre, c'est plutôt cette dimension qui permet à l'esprit lui-même, la conscience, la présence, d'être établi. Et vraiment dans le sens d'être stabilisé, d'être soutenu. Comprenez ceci? Donc c'est assez clair, dans le sens que on peut employer différents termes pour parler de ces aspects. Il y en a qui parlent de la concentration, il y a des personnes qui parlent de la tranquillité. Et puis, ça implique quelque part une énergie qui est quelque part rassemblée et qui fait qu'on peut être posé, donc centré, indépendamment des expériences. Donc on peut aussi ici, dans notre vocabulaire à nous, que ce soit Charles ou moi-même, on va souvent employer le terme de réceptivité. Et réceptivité dans le sens de détente qui développe cette stabilité, le fait d'être posé mais à la fois détendu. Si on est constamment en train de croire qu'il faut fabriquer ce calme et qu'il faut une fermeté forcée, fermeté dans le sens de forcer et de ne pas bouger, eh bien, ceci va générer des tensions inutiles. Donc, c'est bien plus une disponibilité, une flexibilité, une souplesse d'esprit. Et il est dit d'ailleurs dans l'enseignement que ce qui va générer le calme, c'est l'aise de l'esprit. La condition qui favorise le calme et quelque part la stabilité, c'est lorsque l'esprit est à l'aise. Donc, il ne s'agit aucunement de forcer ou de tendre l'esprit dans un registre ou une zone particulière. Donc, la réceptivité comme attitude première. Puis, à partir de cette réceptivité, ben, l'autre aspect, c'est cette dimension de lucidité. Il est stable, il est clair, il est dans le sens de pouvoir vraiment connaître, se connaître lui-même ou connaître des expériences sensorielles. Et c'est bien plus simple de connaître ce qui se situe d'un esprit ou d'un espace de détente. Donc la détente est quelque chose d'absolument essentiel. cette qualité de l'esprit, elle est au contact d'une attention ou d'une expérience immédiate. Et c'est toujours au contact de l'expérience immédiate. C'est pas quelque chose à créer ou à favoriser ou qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est vraiment au contact de ce qui émerge d'instant en instant. Donc il y a peut-être un moment où on est complètement perdu, mais l'instant où il y a la prise de conscience d'avoir été perdu, on y est là. Et on peut vraiment se reposer dans l'expérience. Et ce terme de reposer dans l'expérience va naturellement générer du calme, de la tranquillité. Ce qui implique qu'à ce moment-là, on peut commencer à sentir, et je pense que vous l'avez peut-être senti par moments ces jours, c'est que tout à coup, on se sent, waouh, là, présent, tout simplement présent, conscient, centré. Et puis bien sûr, on le perd parce qu'on n'a pas quelque part beaucoup d'aptitudes qu'on a envie peut-être de s'affairer ou qu'on a des choses peut-être à faire, donc on est préoccupé, puis on est repris dans le mouvement. Mais il y a cette extraordinaire capacité de se dire, tiens, la conscience est là, il y a de l'aise, il y a du centrage, on se sent tout simplement conscient, présent dans ce qui se passe. Donc nous n'avons pas besoin d'une expérience particulière. C'est vraiment dans l'attitude. L'esprit peut prendre appui sur ce qui se présente, quoi qu'il y ait, quelle que soit l'expérience présente. Donc là, il y a une véritable rencontre avec l'expérience immédiate. Et c'est assez goûteux. C'est beaucoup plus goûteux que d'essayer de constamment forcer pour trouver quelque chose qui ne serait pas là. Hein, qu'on fait vraiment assez souvent, c'est qu'on est dans une disposition d'esprit à essayer de constamment chercher quelque chose qui n'est pas là. Alors que là, le calme vient et provient de cette dimension de pouvoir s'ouvrir et s'intéresser à ce qui est là. Il y a une citation de Sénèque que j'aimerais vous donner. Il jouit du présent sans dépendre de ce qui n'est pas encore. Il jouit du présent sans dépendre de ce qui n'est pas encore. Il est sans espérance et sans désir. Il ne s'élance pas vers un but incertain, car il est satisfait de ce qu'il possède. Et il n'est pas satisfait de peu de choses, car ce qu'il possède, c'est l'univers tout entier. Donc cette merveilleuse qualité de présence, il y a vraiment ce goût, cette saveur d'être dans la totalité de l'expérience, comme on a pu essayer de l'exprimer à maintes reprises. Il y a là une complétude. Il y a un sentiment de complétude, de satisfaction, et qui naturellement va nourrir le calme, va nourrir l'aise, et qui ça va nourrir aussi le sentiment d'ouverture, de largesse, la totalité. Lui, il décrit ça comme posséder l'univers tout entier. Donc il y a là, dans cette disposition, une satisfaction extrêmement claire qui fait que nous ne sommes plus tant portés ou tant dépendants d'avoir besoin de changer l'expérience, sans espérance et sans désir, ne s'élance pas vers un but incertain. Mais il repose dans l'expérience et on peut nommer ceci à un moment donné, ce calme qui peut être ressenti comme de la plénitude. Donc ceci est à notre disposition. Chacun, chacune d'entre nous a le pouvoir de vivre ceci. Indépendamment des circonstances. un de mes maîtres avec lesquels j'ai pratiqué, il dit ceci: les gens disent que c'est difficile de maintenir la présence. Il dit, en réalité, ce n'est pas difficile de maintenir la présence. C'est difficile lorsqu'ils veulent maintenir la présence de leur objet préféré. C'est-à-dire de choisir et d'avoir une expérience particulière. Ça vous parle? Par moment, on a effectivement l'envie d'avoir une expérience et pas une autre. Donc c'est exactement là que ça devient difficile et qu'on perd son calme. On a tous des préférences, c'est évident. Il s'agit de les repérer. Lorsqu'elles agissent et qu'on ne les repère pas, et c'est là qu'on a besoin de la lucidité, elles nous limitent. Elles nous contraignent. On ne peut pas être tout simplement avec l'expérience présente parce qu'il y a une attente, une espérance d'une autre expérience. Ce qu'on peut nommer ici attente ou attachement ou désir attachement. Et dans ces moments-là, nous sommes tourmentés et cette qualité de présence, eh bien, elle est difficile à ressentir. Lorsqu'on prend conscience de ceci, il s'agit tout simplement de prendre conscience de la préférence, d'avoir envie d'une autre expérience. Ce sentiment d'acceptation de ce qui est, de pouvoir être en accueil, et tout à coup, à nouveau, le calme peut être vécu et ressenti. Donc on comprend bien qu'à chaque moment, tout se joue. L'enjeu, il n'est pas, ah ben voilà, ça y est, pendant une demi-heure, je vais perdre mon temps parce que j'ai commencé avec la préférence et puis je suis plus à même de m'orienter. Non, au moment même où la présence est à nouveau là, on peut bien sûr se détendre et retrouver cet équilibre, ce centrage, à tout moment. Et ceci est très intéressant parce que je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir des expériences particulières. Donc la conscience et cette stabilité dans la présence, elle est vécue comme conscience non sélective. Vous voyez que là, c'est important parce qu'on croit qu'on doit peut-être quelque part sélectionner ou catégoriser un type d'expérience pour pouvoir être calme. Et ça, c'est une vue erronée. Donc la conscience, si vous voulez, non sélective, c'est-à-dire que dans Vipassana ici, on peut très bien avoir une foule de différentes expériences. Un son, une sensation, un vécu, une émotion, et ainsi de suite, une pensée. Et que c'est dans la qualité de la présence même, la qualité de l'attention, qu'on va découvrir la stabilité même. C'est là que le calme s'installe. Ce qui se stabilise, c'est la présence elle-même, au contact de différentes expériences, constamment changeantes. Donc là, il y a une ouverture et une disponibilité qui est beaucoup plus vaste et qu'on peut être à ce moment-là beaucoup plus ouvert, centré et ouvert dans notre méditation. Donc pas de condamnation, pas de jugement, pas de rejet, au contraire, de la disponibilité, de la réceptivité et de l'écoute. Mais toujours au contact d'une expérience immédiate, c'est-à-dire le vécu, le ressenti, et non pas juste la réflexion. Donc cette qualité d'écoute qui provient justement de cet espace intuitif. Et lorsqu'on parle de Vipassana, c'est une méditation qui est vraiment liée à la dimension intuitive. C'est quelque part générer une écoute plus profonde que le brouhaha de nos pensées ou de ce qui se dit au sujet de. Et tranquillement, cette écoute, eh bien, elle va s'installer. Et cette dimension de présence intuitive est quelque chose qu'on va pouvoir commencer à découvrir. Peut-être pas au début, peut-être qu'il y a beaucoup de descriptions au début, beaucoup de de commentaires sur ce qui se passe, cette petite voix qu'on a qui a envie de dire ceci ou cela sur l'expérience, qui nous accompagne, qui est souvent assez gênante quand il dit mais bon, tu peux pas te taire. Et puis il s'agit aussi de l'écouter, cette petite voix qui dit tiens, je t'accompagne et puis je te rassure ou bien je te juge. Ou... C'est très intéressant de voir combien de personnes vivent avec cette petite voix où on a l'impression qu'on a un guide intérieur, mais il y a un moment donné où quand on peut se poser et que ce calme s'installe, eh bien, par moment, on peut se rendre compte que ceci, ce niveau-là cesse et qu'on peut vraiment véritablement goûter à une expérience, immédiate sans l'ajout d'un commentaire. Et ceci nous donne confiance. Donc la confiance grandit. La confiance, elle grandit dans la présence et dans notre capacité à pouvoir être à même d'être un petit peu plus ouvert et plus libre. Qu'on n'a pas chaque fois besoin de forcer le processus où on se rend bien compte qu'il le déstabilise. Si par moment il y a des doutes, c'est tout à fait normal d'avoir des doutes, d'avoir des incertitudes. Comme il peut y en avoir au sujet du monde, comme je l'ai dit précédemment, il peut y en avoir aussi au niveau de notre manière de pratiquer ou ce qui se passe en nous-mêmes. Le doute est très, très éclairant. Alors le doute sceptique, c'est celui qui tourne en rond, qui dit mais je ne sais pas faire, je ne suis pas capable, je ne peux pas, mais je ne saurais jamais méditer. Ça va prendre 20 ans jusqu'à ce que j'arrive à rester 5 minutes présent. Et ça, ce sont des pensées qui sont là et qui sont naturellement, quelque part, génératrices de troubles. On en prend conscience. Donc, la stabilité de la présence peut aussi, quelque part, se manifester en incluant ceci, en disant, ah, mais du doute, mais c'est juste du doute en réalité. Et qu'on perçoit exactement de la même manière qu'on peut commencer à sentir la somnolence, on peut sentir la présence du doute. Et que ça peut nous déstabiliser, mais qu'au moment où il y a la présence, elle peut nous redonner confiance, un instant plus tard. Donc le doute n'a pas besoin de nous arrêter ou nous freiner en chemin. C'est important de le reconnaître. Maintenant, le deuxième aspect, c'est cet aspect donc j'ai parlé de la tranquillité, du calme, et l'autre aspect qui est cette dimension de lucidité, discernement, clarté. Donc, le calme, si vous voulez, ou la présence stable, elle nous permet d'être au contact de ce qui est, c'est-à-dire de reconnaître l'expérience. Ah, c'est cette expérience. Il n'y a pas besoin de dire un mot, simplement l'attention reconnaît ceci ou cela. Et puis la dimension de la vivacité, la qualité plus dynamique, eh bien, va nous permettre d'avoir du discernement par rapport à ce que c'est. On va commencer à pouvoir voir la nature impermanente, par exemple, à ce niveau-là. La nature changeante de l'expérience. Si on a par exemple une douleur dans un endroit du corps, puis qu'on se dit bah, douleur, douleur, oui, c'est une douleur, voilà, je la connais très bien, ok, c'est une douleur. Eh bien, avec un peu de calme, on va situer autrement, on va pouvoir sentir l'expérience en tant que sensation, et non pas simplement le nommer comme douleur, mais. Comme on a pu le dire, là, ah, brûlure ou pression ou picotement. Et puis, le calme me permet de rester stable par rapport à cette expérience. Et puis, la dimension de vision pénétrante ou de lucidité, de discernement va pouvoir me révéler que c'est en réalité extrêmement changeant, que ça bouge, que c'est vibrant, que ça vraiment a de la vie. Cette chose-là. Au niveau du concept ou du mot, il n'y a pas de vie. Mais au niveau du ressenti, eh bien, et de la coloration, on va pouvoir commencer à découvrir cet aspect Et c'est ceci que veut dire vision pénétrante, dans le sens qu'on commence à sentir de l'intérieur, si vous voulez, ou de cet espace intuitif, l'impermanence, par exemple, le changement. Et on se familiarise avec ceci. Donc, tranquillement, de façon extrêmement naturelle, ce processus va s'approfondir. Vraiment d'une manière tout à fait organique, naturelle. Il ne peut qu'aller dans ce sens si on s'accompagne de façon judicieuse. On ne reste plus à ce moment-là au niveau des concepts ou des idées au sujet de la méditation. On vit l'expérience. On la vit plus pleinement. Le maître de la forêt, Achancha, il a bien décrit cet équilibre. Il a dit, si vous mettez votre poids uniquement du côté du calme ou uniquement du côté de l'investigation, vous n'allez pas pouvoir voir la réalité. Votre esprit aura tendance à saisir l'un ou l'autre de ces deux modes. Donc si on s'attache au calme, c'est évident que c'est extrêmement goûteux et puis qu'on peut vraiment quelque part en tirer un bénéfice. C'est évident que c'est agréable. Mais ce calme, à un moment donné, c'est exactement là que cette stabilité, s'il n'y a pas beaucoup d'énergie, ça vire. Il y a un moment donné où ça vire à la léthargie, ça vire à la somnolence. Alors, il y a du calme, puis tout à coup, bouf, on part, et puis on a très très souvent à ce moment-là cette dimension qui se dit, « Ah, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais tranquille, c'était calme et tout. » Puis tout à coup, pouf, il y a une dimension ou une expérience de léthargie, de paresse, de ça glisse. Donc voilà pourquoi là, si on s'attache au calme, on peut partir dans quelque chose qui n'est plus du calme, mais qui va naturellement s'engouffrer dans un état de torpeur. Sans coloration, et puis là, c'est exactement là que tout à coup on peut se rendre compte, ouh là là, mais la dimension, si vous voulez, de la qualité de l'expérience, de la tonalité, elle est neutre. Elle est ni plaisante ni déplaisante, et puis on perd le contact. Du coup, c'est très important là, ce que dit Achancha. Il dit voilà, vous rétablissez le contact. Il s'agit de raviver la flamme, raviver l'esprit, dans le sens de mais qu'est-ce qui se passe ici? Quelle est l'expérience? Qu'est-ce qui se passe? Et on dynamise à ce moment-là l'esprit et la conscience, si vous voulez, la dimension de la présence. Donc tranquillité, calme d'un côté et investigation, intérêt, curiosité. Et ces deux dimensions-là, elles sont vraiment, elles vont de pair et elles sont extrêmement équilibrantes. S'il y a énormément d'investigation et qu'on va du côté de l'investigation, eh bien, quand ça va virer justement au récit. C'est plus une investigation au niveau de l'expérience directe. C'est qu'on élabore à ce moment-là des pensées, comme j'ai pu en parler hier soir. Donc il y a ces fluctuations, c'est complètement normal. Et quand on pratique, on va commencer à dire, oh là là, mais ça y est, je suis en train de penser à nouveau. Ben oui, je suis en train de penser à l'expérience plutôt que de vivre l'expérience. Et puis l'investigation, eh bien, on peut la rétablir. Puis le calme va nourrir un tout petit peu plus de tranquillité et on se repère et il y a plus de dimensions d'équilibre. Donc vous voyez que c'est constamment un processus de découverte, mais qui se découvre sans qu'il y ait besoin d'une expérience particulière. C'est vraiment le processus, si vous voulez, je suis en train de décrire, du déroulement de la méditation. Donc cette qualité, et j'en ai parlé un petit peu hier soir, il y avait une question quant à ce sujet, cette qualité d'investigation. Ce n'est pas tant une investigation pour trouver quelque chose, ou comme on pourrait le dire, nous, dans le sens de réfléchir ou considérer, c'est quelque part un éveil et une vivacité de l'esprit. C'est ça qu'on explique. C'est-à-dire que l'esprit, plutôt que d'être léthargique, eh bien, on va le raviver en étant curieux, en étant intéressé à l'expérience présente. Quelle est-elle? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un picotement? Est-ce que c'est une brûlure? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Alors, bien sûr que moi, je dois utiliser des mots pour communiquer avec vous, mais dans votre rapport à vous-même, là, il n'y a pas du tout besoin de mots. Dans l'espace du silence, cette attention vive, curieuse, intéressée, peut se passer, se manifester dans le silence. C'est la qualité même de la conscience qu'on éveille et qui est intéressée. Donc, c'est vraiment un type d'investigation assez spécifique qu'on alimente. Toujours au contact de ce qui se passe, de ce qui est là. Et naturellement, on nourrit ceci. L'attention, à ce moment-là, elle permet d'être présente et en contact avec ce qui se présente. Elle permet aussi de réveiller le rapport à l'expérience. Comment est-ce que je suis? Est-ce qu'il y a de l'attente? Est-ce qu'il y a du vouloir autre chose? Est-ce que là, il y a une investigation qui est extrêmement riche et importante? Est-ce que je force? Est-ce que je suis détendue? Est-ce que je laisse simplement l'expérience me révéler ce qu'il y a ici présentement? Est-ce que je veux une autre expérience? Vous voyez, tout ça, c'est tout ce que je décris là, ça vient de l'investigation. Il y a vraiment là beaucoup de curiosité. Donc son rôle, c'est quelque part de percevoir de façon vraiment plus claire. C'est la clarté de l'esprit, et ensuite d'intégrer ce qui est vu. C'est une intégration de ce qui est reconnu, de ce qui est vu, de ce qui est perçu. Donc on peut dire très simplement que c'est alimenter une curiosité emplie de vivacité à l'égard de ce qui est perçu, quelle que soit cette expérience, sans attachement. Idéalement et sans aversion. Donc ça, c'est vraiment quelque part ces deux qualités-là, la tranquillité ou la stabilité et la curiosité, sont des qualités mêmes de la pleine conscience ou de la présence. Ce sont des attributs de la présence. Des acolytes. Donc sans attachement, sans aversion. Ça implique sans chercher un résultat particulier. Et là, c'est vraiment quelque chose de tellement important, c'est que nous ne sommes pas positionnés à constamment vouloir un type d'attachement ou de résultat particulier. Et ça, c'est une attitude très différente de celle qu'on a au quotidien. On fait quelque chose dans un but qui est autre. Ici, le cheminement est le but. Le parcours lui-même est le but. Donc vous voyez que c'est quelque part nourrissant et qu'à partir de là, je peux faire des choix qui sont beaucoup plus judicieux. Ça m'éclaire, ça me calme, ça me centre et ça m'éclaire par rapport à mes choix de vie, par exemple. Donc la qualité ici, c'est un esprit plus aiguisé, plus lucide, qui contient du discernement et qui contient aussi quelque part du calme, de la tranquillité. Et donc l'un comme l'autre, ces deux qualités peuvent se nourrir. Elles sont complémentaires. Le calme, c'est poser, se détendre, c'est être en lien avec l'expérience et l'investigation, si on veut, pose la question, mais qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui se manifeste? Et on laisse la présence nous révéler ce qui est là. Donc, c'est deux facultés qui sont très importantes hein, et qui sont des fonctions de notre esprit. Hein, c'est des états mentaux extrêmement clairs et qui fait qu'on peut commencer à avoir une vision pénétrante, une vision claire de la nature, de la réalité. Au présent, dans l'expérience même, mais qu'à partir de là, ces qualités-là se nourrissent. On est beaucoup plus à même à partir de là, de soutenir notre vie. Parce qu'on a des ressources et on peut vraiment sentir que ces ressources, elles sont inépuisables. Et c'est extraordinaire de les avoir ensuite dans notre vie par rapport à ce qu'on a à vivre et à ce qu'on a à créer dans notre vie et ce qu'on veut choisir pour nous-mêmes et pour le monde et enfin toutes les réalisations et c'est pas qu'on s'arrête là, tiens voilà, où est le calme et puis je reste là. Non, il y a ce calme va naturellement être intégré et on va pouvoir ensuite agir avec lucidité, agir avec tranquillité, sans s'affoler. Ou en tout cas, en s'affolant beaucoup moins, en perdant beaucoup moins pied. Et je crois qu'un des registres là, c'est que c'est extrêmement aidant et c'est très important qu'aujourd'hui, dans cette disposition d'être ensemble dans ce monde et de voir ce qu'on veut créer comme monde pour soi-même et pour autrui, eh bien, nous avons vraiment besoin de vivacité, d'élévation du plan de notre conscience à tous et toutes, mais en même temps, il y a aussi besoin de sérénité, de tranquillité, ça c'est clair. On voit bien l'absence de sérénité et de tranquillité, combien ça amplifie les perturbations et le chaos. Donc j'aimerais juste terminer parce qu'il y a un enseignement dans l'enseignement du Dharma qui est donné par le Bouddha qui dit que une des manifestations, c'est de bien sûr être conscient alors qu'on est en train de faire une action, mais qu'il est aussi tellement intéressant et important, comme j'ai pu le dire à un moment donné ce soir. C'est aussi d'éclairer et puis d'investiguer et d'être curieux, d'amener de la curiosité à reconnaître la motivation derrière les actions. Qu'est-ce qui va motiver cette action? À partir de là, on fait des choix. Première façon dont on s'entraîne est d'être pleinement conscient du but de notre action. Quand on va agir, bien sûr qu'il y a quelque part la motivation dans un but, un choix de vie, et qu'ensuite on entreprend cette action. Mais est-ce qu'elle sera bénéfique pour nous et pour autrui? Et donc là, constamment, il y a cette dimension de l'action juste, bénéfique dans le sens, pas juste dans le sens de fausse, mais bénéfique pour soi et pour autrui. Donc, on voit la motivation qui pousse à agir. Est-ce que c'est une action qui va dans le sens de développer du discernement et qui a des implications immenses à ce moment-là pour notre vie et dans le monde? Parfois, elles sont vraiment assez difficiles à cerner, hein? Moi, je pense qu'il y a des fois où vraiment je passe un moment à dire, tiens, mais voilà. Je suis un petit peu confuse et la confusion, c'est exactement ça, le manque de clarté quant à dire, tiens, mitigée, j'ai même des idées contradictoires, donc de prendre le temps de se poser, d'être calme pour y voir un peu plus clair, pour pouvoir percer quelque part la clarté. Des fois, c'est extrêmement clair, cette action. Voilà, elle porte au bien, elle est emplie de bienveillance et elle va à bon escient, elle va aider quelqu'un ou elle est très claire. Mais se poser les questions va nous éclairer aussi, non seulement le courage dont j'ai parlé avant, mais de l'honnêteté. Et c'est évident que ce chemin nous demande d'avoir non seulement du discernement, mais d'être franchement sincère. Et c'est une qualité, c'est une des qualités, c'est un des paramis, dans le sens que être honnête quant à pouvoir faire des choix et honnêtement devenir responsable de ses choix. Donc simplement se rendre compte dans cette qualité de présence avec calme, cette action est-elle salutaire ou non? Est-elle bénéfique ou non? Est-ce qu'elle conduit à quelque chose qui est porteur ou non? Est-ce qu'elle va générer de la souffrance ou non? Donc cette qualité d'attention, de présence est extrêmement importante par rapport à nos vies. Donc repérer la motivation avant l'action. Et ce que je suis en train d'écrire là, c'est savoir si l'action est pertinente. Vraiment savoir si cette action est pertinente. Pertinente dans le sens utile et véritable. Voilà, et donc ensuite, il y a tout un enseignement qui va intégrer les domaines de la pratique. Donc, je ne vais pas ici continuer l'enseignement après l'heure, parce que je crois qu'on en a déjà pas mal entendu. Mais succinctement, dans le Satipatthana Sutra, qui est donc quelque part le manuel de la méditation, on va clairement comprendre qu'il y a quatre champs de l'attention: le corps, les ressentis, l'esprit, et puis tous les dharmas, toutes les expériences qui sont des domaines appropriés. Et quand chaque vécu, qu'en chaque circonstance, on peut appliquer cette pratique. Donc, un véritable engagement consacré à s'éveiller. Cette présence éveillée, elle peut être manifestée, cultivée en toutes circonstances. Une des descriptions qui est très claire, c'est... Et moi, franchement, je suis assez honnête pour vous le dire. J'exerce cette dimension d'action et c'est un des domaines qui m'intéresse et qui me parle à moi. C'est dans le sens d'un dépouillement, dans le sens d'un lâcher-prise et pas d'un cumul d'augmentation de biens, par exemple. De quoi ai-je besoin pour être heureuse? Être bien. Quel est véritablement mon besoin? Quelle est l'attitude qui va peut-être viser à un dépouillement? Donc ça, c'est une sphère de questionnement, d'élaboration qui me fascine, moi. Alors chacun la sienne, hein? Mais l'investigation, et avec calme, on peut l'exercer, qui permet que, dans mon cas précis, c'est cette importance dans la retenue. Et que la retenue, ben, c'est une action. Vous voyez ce que je veux dire par là? La retenue, ben, peut-être des sens ou de combien je vais regarder tout simplement les médias, combien je vais m'impliquer, combien c'est aussi important de quand même être au courant. Donc cette valeur quelque part de la simplicité, la valeur du lâcher prise est quelque chose qui a trait à la saveur de la liberté. Donc cette liberté, elle peut se situer à beaucoup, beaucoup d'endroits. Il y a bien des manifestations. Et ensuite, c'est vraiment comprendre cette réalité telle qu'elle est, hein? Donc changeante. Naturellement, ici, puisque les choses sont incontrôlables, on voit bien que quelque part elles sont insatisfaisantes parce qu'elles changent, tout simplement, qu'on n'a pas vraiment de saisie, de contrôle, et que c'est très très douloureux d'essayer de contrôler ce qui est incontrôlable. Et donc ça, on commence à pouvoir le percevoir de façon évidente. Et donc, voilà, le dépouillement, le lâcher-prise, la simplicité. C'est quelque chose qui peut être choisi. C'est beaucoup plus facile de la choisir que de la subir. Et puis ensuite, il y a toute cette étude du moi, du je, du mien. Combien on peut aussi imaginer qu'il y a un moi, un je permanent, alors qu'il est aussi clairement, manifestement, ce processus de vie changeant et que je suis sûre que ce soir, vous n'avez pas exactement le même état d'humeur que vous avez eu à midi ou ce matin, et qu'il y a eu plein d'expériences qui prouvent que... Ah oui, non, mais c'est moi qui fais l'expérience maintenant. Puis ce matin aussi, c'était moi. Mais oui, est-ce que c'est un autre moi ou est-ce que c'est... Vous voyez que ça implique qu'on peut vraiment y passer du temps et qu'on étudie cette dimension-là dans laquelle je ne vais pas aller ce soir.